Posons-nous les bonnes questions pour accélérer la transition écologique des collectivités. Avec Territoire et Sobriété, le podcast de l'ADEME et du ministère de la Transition écologique, partons pour un tour de France d'initiatives locales en faveur de la sobriété matérielle. Retrouvez les épisodes sur www.epargnonsresources.gouv.fr/collectivité.
BFM Business, vos placements, nos conseils, BFM Bourse, avec Guillaume Sommerer.
C'est votre émission sonnante et très bouillante. Bienvenue à tous. Les marchés bouillonnent sur BFM chaque jour jusqu'à 18h. On prend leur température grâce à Aude Kersulek. Elle est au cœur de cette séance depuis la Tour Euronext, la salle de contrôle du CAC 40. Rebonsoir Aude. Comment se passe, Aude, cette première séance de la semaine?
On a baissé en température. Sur le CAC 40, on est maintenant juste en dessous des 0% sur le CAC 40. Tout juste à 0% d'ailleurs, 8151 points. On prenait un petit peu de terrain dans l'après-midi. Et puis finalement, avec Wall Street qui se trouve aussi dans le rouge, qui prend une pause aujourd'hui, le CAC 40 qui réduit aussi la tendance. On a aujourd'hui des actions de la défense qui sont à la hausse sur le CAC 40, Thales, Dassault, Aviation. Et puis on a aussi le pétrole qui continue de monter. On est à $86 le Brent.
Oui, et vous rêvez, vous tous qui nous suivez peut-être de la semaine de 4 jours, venez en bourse. Les marchés s'offrent cette semaine une semaine de 4 jours puisqu'il n'y aura pas de séance vendredi comme à chaque veille de week-end pascal, pas de séance à Wall Street, pas de séance non plus vendredi prochain sur la plupart des marchés européens. Une semaine raccourcie, c'est vrai, qui démarre, mais riche et dense. Des chiffres d'inflation notamment qui seront publiés aux États-Unis, l'indice PCE que suit très près la Fed, ce sera vendredi. Et cette question qu'on pose à nos experts, quel potentiel boursier désormais maintenant qu'on est en dehors des phases de publication d'entreprises, quels seront les prochains relais boursier. C'est vrai que les indices ont bien progressé depuis le début de l'année. Ceci dit, il faut quand même nuancer la hausse de ce début d'année, de ce premier trimestre, puisque le S&P 500 n'effectue pour l'instant que son 15e meilleur début d'année, 15e depuis 1928. Alors c'est pas mal le 15e depuis 1928, mais enfin, on n'est pas sur un début d'année record en termes de hausse, d'ampleur de la hausse. Est-ce que ça signifie qu'il reste encore beaucoup de potentiel pour la suite? On posera cette question à nos experts du club dans un instant. Puis on parlera aussi de la tech, bien sûr, et cette ombre chinoise sur la tech américaine, puisque la Chine envisage d'interdire l'usage de puces Intel et AMD. Si bien donc qu'Intel recule de plus de 2%, Intel réalise quand même 27% de ses ventes en Chine et AMD 22%. On va aussi en parler avec nos experts. On est à vos côtés. Bienvenue à tous. On joue dans votre camp pour encore quasiment une heure.
BFM Bourse, le club de la bourse.
Et si vous avez raté le reste de l'émission, on est ensemble à l'antenne en direct depuis 15h30, ne ratez pas, en l'occurrence, nos replays, notamment sur notre site BFM Bourse. John Plassard, il nous accompagnait à 15h30 tout à l'heure dans USA Today et il nous parlait de l'importance de cette journée pour Donald Trump. Donald Trump qui aura besoin d'une caution dans un procès en civil. Et cette caution, il espère l'obtenir, l'argent de la caution, il espère l'obtenir grâce à la bourse, en introduisant en bourse ses médias et réseaux sociaux pour plus de $3 milliards, ce qui est d'ailleurs assez cher quand même. On en parlait avec John Plassard. Replay disponible, vous pouvez le consulter. Il est désormais en ligne sur notre site BFM Bourse, bfmbourse.com. Quel potentiel en bourse sur les marchés? Daniel Gérino et Louis de Montalembert sont avec nous, nos deux coéquipiers du club. Bonsoir messieurs.
Bonsoir.
Louis de Montalembert est le président de Pléiade AM, Daniel Gérino, le PDG de Carlton Sélection. Merci de nous avoir rejoints ce soir. On termine le premier trimestre, là. Dernière semaine du trimestre. Beau trimestre. Le Nasdaq, le S&P ont gagné 9%. Le CAC, depuis le début de l'année, gagne lui 7%. Beau trimestre, mais en fait, on a déjà fait beaucoup mieux au premier trimestre. Effectivement, Wall Street n'est en train de vivre que son 15e meilleur début d'année. Qu'est-ce que ça vous inspire, Daniel? Est-ce que vous vous dites que même si Wall Street a encore progressé depuis le 1er janvier, il reste beaucoup de potentiel?
Juste un point, depuis le 1er janvier 2022, la performance du S&P, vous avez une idée?
Ah, allez-y, énorme.
Donc ça fait 2 ans et 3 mois, 9,8%. Je pense que c'est la réponse à la question que vous avez posée. Oui, effectivement, c'est un beau début d'année, mais quand vous regardez, vous avez le Nikkei qui fait 22%, le MIB en Italie qui fait 13%, et en gros, les indices européens et américains qui tournent entre 8, 7,5 et 11%. Donc c'est une belle perf, hein. C'est une performance qu'on attend généralement sur une année. Mais on vient de quand même assez loin. Mais surtout, ce qu'il faut regarder, c'est pas le présent ni le passé, il faut quand même regarder le futur. Et le futur, c'est les bénéfices par action. Qu'est-ce qu'on attend comme bénéfices par action? Quel est le moteur qui va guider les performances futures? Il faut qu'il y ait du carburant dans la voiture, sinon elle n'avance pas. Bon, quand on regarde les bénéfices par action qu'on attend sur les États-Unis, c'est quand même 13%. c'est plutôt pas mal sur 2024. 5% pour l'Europe. Donc, vous voyez, on est vraiment dans une situation qui est un petit peu différente de celle que l'on pourrait analyser si on regarde juste le prisme du trimestre ou depuis le début de l'année 2023. Maintenant, quand on prend plus de champs et de recul, alors là, c'est assez amusant parce que si vous prenez 10 ans de recul, le Nasdaq, c'est 405%. Le S&P, c'est 180%. Le CAC 40, avec dividendes réinvestis, on est à 160%. Donc, vous voyez qu'il y a un complet décrochage entre les croissances économiques et les croissances des marchés boursiers.
C'est ça.
Et vous avez aussi des périodes qui se succèdent, où vous avez des baisses du marché, comme on a eu en 2022, et des rebonds. Mais comme vous le savez, quand vous avez perdu 10 ou 20%, pour revenir au même niveau, il faut 20 ou 30%. Donc on est un peu trompé par les chiffres en valeur absolue. Il faut les prendre plutôt en relatif. Donc nous, on est plutôt optimistes sur les marchés. On pense que les perspectives sont bonnes. Il y a une forme d'alignement de planète, pas totale, mais partielle aux États-Unis. On est un petit peu moins bullish sur l'Europe, mais on aura peut-être l'occasion d'en parler tout à l'heure.
Oui, et c'est vrai que si en pourcentage Wall Street, le S&P ne vit que son, c'est déjà bien quand même, son 15e meilleur début d'année, en nombre de points, en nombre de points gagnés en 3 mois, là en revanche, on est vraiment sur le haut du haut du haut des meilleures années de Wall Street, des meilleurs débuts d'année de Wall Street. Qu'est-ce que ça vous inspire pour la suite? Parce qu'on essaie d'apporter chaque soir dans le club un coup d'avance pour la suite. Quel potentiel en bourse pour les prochains mois d'après vous, Louis?
En fait, il faut garder à l'esprit que, comme l'année dernière, ce rallye de début d'année reste concentré sur un nombre limité de valeurs. D'accord? Donc, en fait, derrière, il faut débroussailler un peu et on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de valeurs qui n'ont rien fait depuis le début de l'année. Alors, il est traditionnel de parler des small caps, hein, parce que maintenant, ça fait 5 ans qu'elles sous-performent les large caps. Et il est indéniable qu'à un moment ou l'autre, les small caps vont tirer leur épingle du jeu, mais nous, on est plus sur le logiciel. Depuis le début de l'année, le logiciel ne fait rien. En fait, on est vraiment dans un instant hardware. C'est les semi-conducteurs qui tirent le gros de la croissance. Et puis, quelques entreprises qui ont annoncé des très bons résultats et qui ont eu des remontées de leur cours. Mais au final, l'image est beaucoup plus contrastée que ce classement qui consiste à dire que les indices font une très bonne performance depuis le début de l'année.
Mais on voit quand même depuis quelques semaines un début de réveil, de rebond quand même d'un certain nombre de secteurs qui ne profitaient pas de la hausse des marchés ou qui n'étaient pas moteurs. Là, on les voit quand même à nouveau commencer à performer malgré tout.
Oui, mais c'est pour l'instant, on a encore un Nvidia, je ne sais pas, qui a plus 90%, qui doit représenter sur les 10% du S&P 500 une part non négligeable. Et puis les méga cap tech tirent encore quand même le rallye qui a débuté en octobre de l'année dernière. Donc, ce qu'on peut voir pour l'avenir, effectivement, alors je suis parfaitement d'accord qu'on est sur une année qui est discriminante. Le discriminant, c'est principalement les résultats des entreprises. Hein, c'est ce qu'on a appris en 2023 à partir du premier trimestre. Ça a été le discriminant majeur, là où on avait une baisse indiscriminée en 2022 et plus particulièrement de la tech. Donc là, ça va être les résultats des entreprises. On a quand même des entreprises qui maintiennent des marges grâce à des gains de productivité qui sont satisfaisants. Et effectivement, on pourrait avoir ce qu'on appelle le « everything rally », c'est-à-dire pas uniquement la tech ou même le sommet de la tech qui tire les marchés, mais le reste des marchés qui commence à pousser. Alors, pour ça, il ne faut pas que le sommet s'effondre non plus, hein, parce que ce n'est pas forcément un jeu de chaise musicale dans lequel, si demain on a un Nvidia qui chute lourdement, ça va être compliqué d'amener le reste de la cote. Mais on peut volontiers imaginer qu'avec une stabilisation des méga cap tech, derrière, on commence à voir les investisseurs qui vont chercher des opportunités d'investissement, y compris en Europe, parce qu'effectivement, l'Europe est nettement moins dynamique que les États-Unis. C'est triste à pleurer quand on le regarde, mais toute chose ayant une valeur, il y a un moment où on peut constater que les niveaux de valorisation en Europe peuvent éventuellement attirer des investisseurs. Mmh. Je dis pourrait éventuellement, je disais le conditionnel, c'est pas une chose certaine, hein, ça fait tellement d'années qu'on dit non, cette année c'est l'année de l'Europe. Loin de moi l'idée de prôner l'année de l'Europe en 2024, mais néanmoins, je pense quand même que des résultats d'entreprise tirés par des gains de productivité peuvent surprendre et faire une année 2024 qui peut être tout à fait intéressante.
Oui. Est-ce que derrière ces grands arbres, la tech américaine, le luxe ici en Europe, qui ont fortement poussé et porté à la hausse les marchés, on peut imaginer que la majorité silencieuse des valeurs, en retard, qui ne performent pas autant, finissent par se réveiller? Est-ce qu'on voit les déclencheurs arriver là pour cette majorité silencieuse du marché?
C'est beaucoup plus compliqué, parce que En réalité, quand vous regardez ce qui a vraiment tiré les bourses, comme le disait lui tout à fait justement, c'est effectivement les valeurs de la tech, parce que c'est un marché très spécifique. Mais le reste, ce sont des marchés qui dépendent beaucoup du consommateur. Or, le consommateur, il faut qu'il ait de quoi consommer. Et on sait très bien que les taux d'épargne ne baissent pas en Europe. Ils ne baissent pas parce que les consommateurs veulent absolument maintenir un matelas de sécurité. En Chine, c'est encore pire. Il n'y a qu'aux États-Unis, où ça consomme, avec un taux d'épargne qui est à peu près 3,5 fois plus bas que l'Europe. Donc, pour les secteurs, c'est très compliqué. En plus, au niveau des marges, on voit très bien qu'il y a une augmentation du coût salarial, une augmentation l'an passé, mais surtout en 2022, des matières premières, donc il y a une compression des marges. Aujourd'hui, ils n'ont plus le pricing power pour pouvoir remonter les prix comme ils l'ont pu le faire en 2023. Ils sont capés. Or, la pression vient par le dessous, donc c'est beaucoup plus compliqué. Et c'est pour ça qu'on voit ce différentiel entre les croissances de bénéfices Europe et États-Unis, avec plein d'éléments qui militent plus pour les États-Unis que pour l'Europe, hormis certains secteurs comme le luxe. Nous, on est très investis sur le luxe, Hermès, LVMH, ce sont même plus des entreprises, c'est pas des entreprises locales, ce sont des entreprises mondiales. Mais il faut savoir aussi que les entreprises et les indices plutôt européens, les indices japonais, l'indice japonais et les indices anglais dépendent énormément de la conjoncture mondiale, ce qui n'est pas le cas aux États-Unis. Aux États-Unis, c'est pratiquement en circuit fermé. Or, aux États-Unis, la croissance, elle est robuste. On va être entre 2 et 2,5 cette année, ce qui est assez remarquable.
Incroyable, hein, ouais.
Pendant que nous, on va se traîner à 0,5. Donc on est quand même, lorsque l'on fait le bilan, on s'aperçoit qu'il y a quand même énormément de paramètres qui sont plutôt positifs pour les États-Unis et plutôt contraignants pour l'Europe, compte non tenu évidemment de certains secteurs pour lesquels il y a des exceptions. Hein. On peut parler du secteur de la santé avec Novo Nordisk, on peut parler du secteur du luxe, on peut parler de l'aéronautique ou de la défense. Là, on a un certain nombre de valeurs qui sont formidables.
Ici aussi en Europe. Voilà.
Ici aussi en Europe.
Et sinon, le reste de la majorité silencieuse des valeurs risque de moins profiter de la conjoncture économique que leur père américain.
La conso discrétionnaire, les télécoms, tout ça, ce sont des secteurs qui...
Vous disiez, les États-Unis éblouissent le monde par leur croissance, c'est vrai, hein, franchement, ils étonnent tout le monde. Ici en Europe, on traîne comme un boulet, effectivement, une très très faible croissance. Et d'après le Handelsblatt, les instituts économiques allemands, IFO, IFW, vont annoncer cette semaine, d'après le Handelsblatt, une très forte révision à la baisse de leur prévision de croissance pour 2024. Elle passerait, la prévision de croissance allemande pour 2024, d'après ces instituts, de 1,3% à 0,1%. Vous rendez compte l'ampleur de la révision à la baisse de la croissance allemande.
C'est un super choix fait par Angela Merkel. Quand vous confiez, encore une fois, toute votre demande aux Chinois, quand vous confiez votre énergie aux Russes et que vous confiez votre défense aux Américains, vous êtes dans un phénomène de concentration excessive. On parlait de bipolarisation. Tout est bipolaire en ce moment dans le monde. Eh bien, l'Allemagne, elle est concurrencée, mais frontalement, par la Chine. Elle fournit des matières premières, des machines-outils aux Chinois pour se faire concurrencer sur leur propre segment, c'est-à-dire le segment automobile.
Et oui, c'est ça.
Mais en même temps, ça, c'est terrible.
Oui, complètement. Est-ce qu'on peut imaginer, dans un instant, on parlera de la séance, hein, on approche de la clôture, mais est-ce qu'on peut imaginer que la note allemande, elle est encore triple A, l'Allemagne, par exemple, le Standard & Poor's, qui a confirmé le triple A allemand, est-ce qu'on peut imaginer que cette note soit dégradée ou que la perspective de la note allemande soit dégradée si la croissance ne revient pas en Allemagne? Parce qu'une si faible croissance, c'est autant de prélèvements d'impôts en moins. Enfin, je veux dire, c'est... Voilà. Alors, bien sûr, budgétairement, en termes d'endettement, etc., ils sont vertueux, mais... À un moment, si la croissance devient structurellement absente, est-ce qu'à un moment, ça pourrait finir par peser sur la perspective de la note allemande quand même ?
Oui, d'abord, si l'Allemagne n'est plus triple A, qui le restera ? Le Luxembourg et la Hollande, peut-être. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas nécessairement... Alors, c'est structurel aujourd'hui, mais on a vu les Allemands faire des tournants et réussir à se réinventer. Et ils ont des marges de manœuvre. C'est quand même la grande différence avec d'autres pays, c'est qu'ils ont des marges de manœuvre pour aller à marche forcée.
Pas tant que ça. Ils ont la cour de Karlsruhe qui les empêche de dépenser comme ils le devraient pour investir dans la croissance de demain. La cour de Karlsruhe dit non, il ne faut pas dépenser autant. Donc ils ont des verrous politiques quand même à leur potentiel.
Oui, mais là c'est comptable.
On ne peut pas faire ça. Enfin, et puis on ne peut pas faire comme si ça n'existait pas.
Les constitutions, ça se change, comme on le sait. Alors en Allemagne, peut-être un peu moins souvent que chez nous. Mais.
Est-ce qu'à vouloir être plus herbivore que les autres, l'Allemagne finira en steak, voilà.
Ah ben, ils vont mourir en bonne santé. Mais non, mais c'est un vrai sujet. C'est là où l'Italie avait avec Mario Draghi, on en parlait tout à l'heure, Mario Draghi avait obtenu quand même une énorme subvention européenne pour se mettre dans les nouvelles technologies, la transition énergétique, vraiment dans tous les thèmes et les sujets intéressants de demain. L'Allemagne n'a pas tellement été sur le sujet. Et ils sont trop concentrés. Ils sont sur la chimie et sur les machines-outils et le secteur automobile. Oui. Sur le reste, c'est plus compliqué. La France est mieux placée dessus.
La France est mieux placée. Il y a un dicton qui dit « À vouloir être plus herbivore que les autres dans un monde de carnivores, vous finirez en steak. » Bon, est-ce que l'Europe sera le steak du monde ? Ah, tiens, cette question pourra se la poser dans un instant, juste après un coup d'œil à la séance. Dernière ligne droite. On accélère vers la clôture, vous l'entendez, on est à 16 minutes. On la vivra en direct d'ailleurs à 17h35. Et on s'oriente vers une séance de hausse, pour le coup, pour l'Europe. Contrairement à Wall Street, mesdames, messieurs, contrairement à tout ce que viennent de nous dire nos intervenants, c'est aujourd'hui l'Europe qui montre le chemin et l'exemple. L'Europe fait mieux que le marché américain, c'est assez rare pour être souligné. Effectivement, notre CAC 40 gagne 0,1%, alors que le S&P perd aujourd'hui 0,2%, le Nasdaq moins 0,3%. Bon, voilà, c'est l'exception qui confirme la règle. Parmi les valeurs qui portent le CAC 40, la défense, dans le contexte quand même tendu, les attentats de la fin de semaine dernière à Moscou, l'attentat énorme, évidemment. Thalès progresse de 2,2%, par exemple. Puis on a un relèvement d'opinion aussi sur Dassault Aviation. Le titre Dassault Aviation est aussi en hausse sur le SRD. À suivre également certains replis, Legrand qui recule d'1,7%. Puis hors CAC 40, on suit Believe. Et toujours cette joue de boursière en cours sur Believe. Le titre gagne aujourd'hui 5,5%, 16,70€. On en reparlera tout à l'heure à la clôture des marchés. Vous vous demandez ce que fait Nvidia, peut-être. Rassurez-vous, Nvidia gagne 2%, alors que Wall Street est en train de reculer. Comme tous les jours, comme d'hab, Nvidia surperforme le reste du marché. On continue d'en parler avec Daniel Gérino, le PDG de Carlton Selection, Louis de Montalembert, président de Pléiade Asset Management. Messieurs, pour la suite, quel type de valeur est-ce qu'il va falloir privilégier ? On entre dans la période de versement des dividendes, par exemple. Je sais pas, est-ce qu'il faut aller vers les valeurs de rendement ? Est-ce que c'est ça la bonne idée ? Est-ce que, compte tenu des incertitudes et du fait que le marché a déjà bien progressé depuis 1er janvier, c'est sur le dividende qu'il faut compter pour trouver de la perf ? Voilà, comment est-ce que vous abordez cette thématique-là du dividende et du rendement, sachant que les versements de dividendes vont arriver ? Là.
Bah, non, moi, j'irai sur des obligations dans ce cas.
Ah oui ?
Mais bien sûr. Vous avez des rendements qui sont top pour le même niveau de risque. Non, je pense que c'est pas le bon plan.
Moi, je suis assez peu intéressé par les dividendes de manière générale. Je crois que les entreprises susceptibles de créer de la richesse dans le temps, c'est-à-dire qui affichent de la croissance et qui investissent pour croître dans le temps, sont structurellement plus intéressantes. Mais évidemment, moi, je me positionne toujours en long terme, c'est-à-dire que c'est compliqué d'être tactique et de se dire on va prendre un peu de dividendes ici, puis un peu de croissance demain. C'est un truc à se prendre les pieds dans le tapis. Et donc, je privilégie toujours les entreprises qui vont soutenir leur performance boursière par une performance opérationnelle. Vous savez ce que disait Benjamin Graham, hein ? Il disait à court terme, le marché est une machine à voter et à long terme, c'est une machine à peser. Donc moi, mon métier, c'est d'essayer de sous-peser les entreprises pour en dériver le juste poids. Donc, est-ce qu'à court terme, il faut prendre des actions à dividendes, j'en sais fichtre rien. En tout cas, je sais qu'à long terme, c'est la croissance qui crée la richesse.
Ouais. Et la concurrence des obligations dont parlait Daniel face au marché actions, cette concurrence, elle va durer là pour le reste de l'année. On arrive au bout du premier trimestre. C'est vrai que les obligations continuent de rapporter. Ça va continuer, ça va durer, ça va limiter le potentiel des actions, cette concurrence de l'obligataire.
En fait, ça dépend beaucoup d'éléments, mais je dirais que ça dépend de la rareté des liquidités et notamment des financements des États. Moi, je pense que l'un des risques qui pèse aujourd'hui sur les bourses mondiales et les systèmes financiers, c'est des États qui sont incontinents et pro-cycliques, qui ont dépenser en période de croissance économique, enfin quand on voit que les États-Unis sont à 8%, que la France découvre, grande surprise, qu'on est à 5,6% au lieu des 4,9%, je pense que le risque vient de là, ça veut dire des États qui ont besoin d'être financés de manière croissante, des banques centrales qui veulent réduire leur bilan, qui refusent de financer davantage, donc ça c'est un impact sur les taux longs. Donc si on a les taux longs dans le scénario catastrophe que je redoute, et qui n'est pas celui que j'anticipe, mais qui serait le risque porté par les marchés, à ce moment-là, on pourrait avoir des taux longs qui se tendent davantage, donc des obligations qui offrent des meilleurs rendements avec des taux réels qui seraient en hausse, une inflation qui restera sur une tendance, quoi qu'on en dise, baissière. Donc là, on pourrait imaginer que les obligations, une fois qu'on arrive au top, parce que si vous achetez des obligations aujourd'hui et que les taux longs remontent, vous en êtes pour vos frais si vous restez à court terme. Hein. Donc, je ne suis pas sûr que ça soit une solution aujourd'hui.
Dans un instant, on parlera de la pression chinoise sur AMD et Intel, puisque la Chine envisage d'interdire les puces d'AMD et Intel. Toujours cette bataille entre la Chine et les États-Unis, de laquelle cette bataille, on parlera dans un instant, ce sera dans la Data Room. Mais d'abord, la question du jour sur nos réseaux sociaux, on va vous la soumettre. Cette question, on vous donne un indice, vous tous qui nous écoutez, le voici l'indice. Ah, qu'est-ce que c'est que ça ? C'est de l'or. C'est de l'or. C'est de l'or en pièces là qui tombe. Il pleut de l'or en barre, effectivement. L'or sur des records, mesdames, messieurs. Ce soir, l'once d'or est à 2 180 $, nouveau plus haut historique pour l'once d'or. Il pleut de l'or sur les marchés, les investisseurs se ruent sur l'or. Et cette question qu'on vous pose sur notre fil XBFM Bourse, notre fil LinkedIn aussi, vous pouvez chacun vous y abonner. Pour vous, quelle matière première progressera le plus d'ici 10 ans ? Est-ce que ce sera l'or ? Est-ce que ce sera, tiens, le cuivre, pourquoi pas, le nickel ou... le cacao. Le cacao qui signe un sacré début d'année. Daniel.
110% de hausse sur le cacao. Pourquoi ?
Attendez, combien ?
110% depuis de hausse en year to date sur le cacao.
Donc depuis le 1er janvier, 110%. Premier janvier. Qu'est-ce qui se passe sur le cacao ?
Alors qu'est-ce qui se passe ? Il y a deux producteurs. Côte d'Ivoire, le Ghana. Côte d'Ivoire a une chute de la production, donc les prix flambent. Mais vous ne le sentez encore pas aujourd'hui, donc achetez vos œufs pour Pâques, parce que les prix mettent 6 mois avant de... d'arriver sur le retail.
Ah oui, parce qu'on voit des sujets dans les médias grand public. Ah, le prix des poules en chocolat seront en hausse cette année compte tenu de la hausse des coûts du cacao. Vous dites c'est que le début, quoi. Ça sera
oui,
pire
c'est
dans
que
un
le
an.
Début, mais par contre ça baissera parce qu'il va y avoir un rééquilibrage. Après, vous aviez alors l'or. Pourquoi l'or monte ? Parce que en réalité c'est presque contre-intuitif puisque les taux d'intérêt réels sont redevenus positifs et l'or normalement devrait baisser. Sauf que ce sont les banques centrales qui achètent. Et aujourd'hui, on a un phénomène qui est plus inquiétant sur l'or. Certains le voient à $3,000 l'once. Et ce phénomène, c'est quoi ? C'est la traduction du fait que pas mal d'opérateurs ne sont plus confiants dans les devises. Pas dans les actions ou les obligations, mais dans les devises.
Pourquoi ?
Ils n'ont plus confiance dans l'euro et ils n'ont plus confiance dans le dollar. Donc, ils se réfugient sur l'or. Et les banquiers centraux... rachètent de l'or, ils vont baisser évidemment les obligations qu'ils détiennent en portefeuille pour acquérir de l'or.
C'est la dédollarisation du monde, dédollarisation relative quand même.
C'est une forme de dédollarisation du monde. Et vous savez ce que disait Warren Buffett, l'or c'est quand même un placement idiot puisque vous passez une énergie folle à le déterrer pour aller le réenterrer dans un coffre. Donc bon, l'or peut continuer à monter. Le cuivre aujourd'hui, nous avons sans doute une poussée, c'est pas terminé. Il va y avoir encore des hausses sur le cuivre, des hausses sur le nickel, je n'y crois pas parce que le nickel est abondamment fourni par l'Indonésie. Oui. Donc la hausse, elle est toute petite, ça ne tiendra pas, elle n'est pas à ce niveau-là. Enfin, je pense que ce n'est pas la croissance depuis le début de l'année, parce que c'est à 3,5% de hausse.
Non, 13% c'est le nombre de ceux qui ont voté, qui pensent. Oui, 13% de
d'accord.
Ceux qui
vont.
Oui,
oui, on voit toujours les performances.
Non, mais j'explique pour ceux qui nous suivent à la radio. On a effectivement dans le grand mur, le grand wall d'image BFM Business, effectivement, ce chiffre 13% en face du nickel. Ce n'est pas du tout la hausse du nickel, c'est le nombre
non,
de ceux...
Parce que l'or a fait 5% depuis le début.
J'explique juste, Daniel, pour ceux qui nous suivent, parce qu'ils ne comprennent pas de quoi on parle. 13% c'est le nombre de votants. Donc, qui ont choisi de voter pour le nickel. Parmi ces matières premières qui, dans les 10 prochaines années, pourraient le plus progresser, 13% d'entre vous avaient voté pour le nickel. Le cuivre arrive devant à 26% et l'or à 44%. Une majorité de 44% vote plutôt pour l'or.
Alors, oui. Moi, je serais plutôt pour le cuivre.
Bon.
Ensuite, l'or. Nickel et enfin caca.
Oui.
Moi, je dirais que, effectivement, l'or traduit, ou les performances de l'or traduisent certainement l'anxiété des acteurs économiques face à l'incontinence dont je parlais des budgets, à un moment ou l'autre. Est-ce qu'on peut continuer à avoir foi dans des États et donc dans des banques centrales qui financent ces États et donc qui augmentent leur bilan ? Mais je voterai effectivement pour le cuivre, pour la simple et bonne raison que on est dans une phase d'électrification de l'économie et il y a encore un angle mort de l'électrification, c'est l'IA générative, puisque on sait que c'est très gourmand en énergie. Aujourd'hui, les échanges de données, c'est 2% des consommations énergétiques. En 2030, ça sera 7,5%.
Et ça, pour le cuivre, c'est plutôt bon. Ça devrait exactement porter les cours du cuivre. C'est Aude Kersulec qui nous appelle là depuis la tour Euronext parce qu'on est à 7 petites minutes de la clôture, 17h28. Dans 7 minutes, Aude, vous nous ferez vivre cette première clôture de la semaine sur le CAC 40. Comment ça s'annonce ce soir ?
Bah, le CAC 40, il garde sa petite avance. Finalement, on est en remontée de 0,09%. En revanche, la valeur qui a totalement changé de bord depuis qu'on s'est parlé à 16h, eh bien, c'est Atos. Hein. C'était la deuxième progression du SBF 120. On prenait 5% après les propos de David Layani, le premier actionnaire dans Le Figaro, qui proposait un nouveau plan pour Atos. Et bah, on a maintenant, c'est la deuxième plus forte baisse du SBF. On perd 3,5%, 1,70€. Alors, c'est vrai que dans le communiqué ce matin, Atos, qui dit qu'il n'a pas du tout été au courant du plan proposé par David Layani, qui a été proposé à la presse et pas devant le conseil d'administration, ça en rajoute un peu une couche. Ils disent qu'ils l'analyseront une fois qu'il leur sera proposé. Mais c'est aussi un petit stress, peut-être, des investisseurs avant la publication de résultats qui avait été reportée de la semaine dernière et qui aura lieu demain matin. Donc voilà, un des mouvements majeurs de la séance, de la fin de séance de ce lundi, qui est quand même plutôt calme.
Dans un instant haut de la clôture, vous nous la ferez vivre en direct. Et vous tous qui nous suivez, si vous avez des questions sur vos portefeuilles, n'hésitez pas ces questions à nous les envoyer en scannant, en flashant le QR code qui apparaît tout au long de l'après-midi dans l'émission, ou encore par mail à l'adresse bfmbourse@bfmbusiness.fr. Vos questions sur les valeurs que vous détenez en portefeuille chaque jour dans Culture Bourse à 15h50. Julie Cohen-Herton et son expert vous répondent. Et d'ailleurs, Culture Bourse tout à l'heure à 15h50 est désormais disponible en replay sur notre site BFM Bourse. On va tout de suite entrer, mesdames, messieurs, dans la Data Room. Votre hub de data. Chaque soir, juste avant la clôture, oui, nos experts vous apportent ces datas rares et précieuses qui vous permettent d'investir les mieux informés possibles. Louis et Daniel, êtes-vous prêts ?
Oui.
Oui.
Vous avez chacun une minute pour présenter une data forte. Pourquoi ceux qui nous suivent et qui aiment la bourse doivent avoir en tête cette data ? Louis, on va démarrer avec vous. Votre chiffre, votre data du jour, c'est 40%.
Oui, Guillaume, en fait, 40%, c'est la quantité des puces vendues par les GPU vendues par Nvidia au quatrième trimestre qui ont été destinées à l'inférence. Alors, qu'est-ce que l'inférence ? En fait, quand vous entraînez un modèle fondationnel type ChatGPT, vous utilisez des GPU et ensuite, vous en utilisez quand on relâche le modèle dans la nature et que les gens font des demandes sur ChatGPT, ça s'appelle l'inférence. Et donc, pourquoi est-ce que cette data est importante ? Parce que ça veut dire qu'il y a une diffusion plus rapide qu'anticipée de l'IA générative, c'est-à-dire qu'on utilise de plus en plus de capacités pour l'usage et non plus pour l'entraînement de l'IA générative. Mmh. Et c'est soutenu aussi par les chiffres de Microsoft qui a annoncé 28% de croissance de sa division cloud, dont 6 points uniquement pour l'IA générative, et ça n'est pas de l'entraînement, c'est aussi de l'inférence. Donc on est vraiment dans une diffusion de l'IA générative dans le système. Et d'ailleurs, ServiceNow, qui est une société de logiciels qui a lancé sa fonctionnalité d'IA générative le trimestre dernier, donc c'est une société qui fait 8 milliards de chiffre d'affaires, a annoncé le plus gros lancement de son histoire avec le lancement de cette fonctionnalité d'IA générative.
L'IA générative se diffuse, c'est ce que reflète, traduit ce chiffre. 40% des GPU vendus par Nvidia au dernier trimestre ont été pour l'IA générative. Nvidia qui n'est plus qu'à 300 milliards de dollars d'Apple en termes de capitalisation. Si Nvidia, dans le mois à venir, progresse autant qu'il a progressé sur le dernier mois et qu'Apple fait la même performance que sur le dernier mois, Nvidia doublera Apple en capitalisation d'ici fin avril.
Oui, mais il faut garder à l'esprit une chose, c'est que Nvidia, son chiffre d'affaires, c'est les capex de ses clients. 4 clients représentent 50% de son chiffre d'affaires, il y en a un qui représente 19%. Alors, il y a une course aux armements en ce moment, je ne peux pas vous dire combien de temps elle va durer, ni quand elle va s'arrêter, mais il faut accepter le fait que c'est des capex, donc des investissements, et ce n'est pas des opex, c'est-à-dire du récurrent.
Ouais, enfin quand même. Attendez, si Nvidia double Apple, ce sera peut-être le cas d'ici fin avril, vous n'allez pas dire oui, mais bon, c'est pas pareil.
Non,
ce sera incroyable, ce sera incroyable.
Non, c'est pas ça que je vous dis. Ce que je vous dis, c'est que c'est pas la même nature. Il n'y a pas nécessairement de repeat business, de renouvellement éternel. C'est comme quand vous achetez une voiture, vous n'en achetez pas une chaque année, vous en achetez une de temps en temps. Bon, ben là, il y a des gros programmes d'investissement dans
les. Mais d'accord, mais Apple, qu'on a toujours décrit comme une valeur de croissance, n'est peut-être plus une valeur de croissance et est en train de devenir une valeur de consommation. Apple non plus n'est pas éternel dans son statut de valeur de croissance.
Mais le business de Nvidia est quand même lié aussi à ces nombreuses acquisitions. Oui. Et chaque fois qu'il y a des acquisitions, ils obligent les sociétés qui ont été acquises à acheter des composants d'NVIDIA. Ça aide.
Jusqu'à ce qu'NVIDIA ait des concurrents de taille et de poids face à lui. On va attendre encore un tout petit peu. Vous avez mis la barre très haute quand même, Louis, sur cette data du jour. La pression est sur vous. Daniel, à votre tour de nous livrer une incroyable data. Votre chiffre, Daniel ?
Alors, 48%. 48-39-13. 48%, c'est la quote-part détenue par les Américains sur le marché actions. Vous voyez, c'est considérable. Alors, ils achètent des actions, mais pas qu'américaines, ils achètent des actions internationales. Et si on regarde la détention des Américains sur leur propre marché, ils détiennent 39% du S&P. Les particuliers, les ménages américains. Wow. Pour faire une comparaison avec l'Europe, c'est 13%. Donc, vous voyez, la nature n'est pas du tout la même. Les Américains comptent sur le marché des actions pour leur retraite, pour leur pouvoir d'achat. Les Européens sont plus sur l'immobilier et sur les taux. Plus frileux, moins téméraire. Mais quand vous regardez la croissance des marchés boursiers depuis le début du siècle, enfin du siècle précédent, 1900, et vous regardez la croissance et les performances des marchés obligataires, il n'y a pas photo. Ils sont sur le bon segment. Il faut juste le gérer dans le temps. Et c'est une leçon que nous, on doit conserver méditer. C'est que le placement action bien diversifié, c'est un placement long, mais c'est un placement qui est rentable. S'il est bien diversifié, ça permet de faire face aux problèmes de retraite.
Les ménages américains détiennent 39% du marché action américain.
C'est colossal.
C'est trop colossal et c'est trois fois plus que la part des ménages européens vis-à-vis des marchés.
Exactement.
Voilà. Impressionnant, effectivement. Et cette data à forte valeur ajoutée que vous propose aussi Daniel. Merci beaucoup à tous les deux de vous être prêtés au jeu de la data room. Ouais, souvent de pression, un petit peu de malaise à chaque fois dans la data room. Daniel Gerino est président de Carlton Selection. Louis de Montalembert de Pléiade AM. Merci, messieurs.
Merci.
Dans un instant, c'est la clôture. On va la vivre en direct. Aude Kersulec depuis la Tour Euronext. Vous pouvez nous suivre aussi toutes les datas du jour, d'ailleurs réactualisées sur notre site BFM Bourse. A tout de suite.
BFM Business, BFM Bourse, la clôture à Euronext.
Aude Kersulec avec nous pour cette clôture, effectivement, depuis la salle de contrôle du CAC 40. Comment termine-t-on, Aude, ce soir, cette première séance de la semaine?
0 plus 0 égale à tête à toto. Hein. C'est totalement stable pour ce lundi. C'est pas passé grand chose quand même aujourd'hui. Au niveau macro, on a franchement rien qui a fait bouger nos indices. Quelques tensions géopolitiques qui font bouger les cours du pétrole. On est quand même à 86 $ le Brent. La défense aussi. Alors on a à la fois la recommandation, le relevé de recommandation sur Dassault Aviation qui fait monter Dassault et Thales, hein, dont Dassault est actionnaire. Mais aussi forcément les événements de l'attentat de Moscou qui viennent un peu raviver ce secteur de la défense, donc qui finit en hausse du SBF pour Dassault Aviation et du CAC 40 pour Thales. En revanche, on a la tech qui fait grise mine. Alors ça se passe du côté des États-Unis, on a le secteur des puces hein, qui est à la baisse, hein, AMD ou Intel. On baisse aussi sur l'Euronext Tech Leader, d'ailleurs hein, sur l'indice parisien. Et puis on a des valeurs comme Téléperformance, Dassault Systèmes qui sont en recul de plus de 1%. On a Société Générale aussi, dont la recommandation a été dégradée par un analyste de Morgan Stanley qui perd 1,9%, Le Grand moins 1,9%. Et puis sur le SBF 120, les plus fortes baisses, c'est Orpea, Sartorius ou Atos, qui publiera ses résultats donc demain matin. Le volume d'affaires, ça reste très calme hein, pour un lundi. 2,7 milliards échangés. Wall Street donc est en mode pause aussi, puisque les trois indices sont pour le moment dans le rouge. Et donc, notre CAC 40, il est très stable. On a fini exactement au même niveau que vendredi soir, c'est-à-dire 8151 points au début hein, de cette semaine de 4 jours, puisqu'il n'y aura pas de séance pour le vendredi.
Oui, c'est la semaine de 4 jours sur les marchés. Vous nous le disiez, 0 plus 0, la tête à Toto. C'est vrai que c'est une séance stable. Alors, on a regardé dans le journal de Mickey une petite blague Toto, qui va peut-être vous plaire d'ailleurs, Aude. Sait-on jamais. Toto va à la boulangerie, le boulanger dit à Toto, aujourd'hui, le deuxième pain au chocolat est offert. Toto répond, alors donnez-moi juste le deuxième pain au chocolat. Voilà. Romain Dobry est avec nous, sans transition et pas de malaise du tout. Romain, rebonsoir depuis la salle de marché, cellule info d'experts de Bourse Direct. Et oui, il y a des enseignements financiers à tirer aussi de certaines blagues de Toto. En attendant de réfléchir à tout ça, Romain, quel bilan tirez-vous de cette première séance de la semaine? Quels signaux le marché envoie-t-il ce soir pour la suite?
Bien, pas de signaux, justement, effectivement, et surtout pas d'intérêt, c'est ça qui est vraiment important, c'est-à-dire qu'on est dans une situation d'attente avec un intérêt au plus bas sur les indices, les opérateurs ne reconstruisent pas, c'est soit un précurseur d'une phase longue d'attente, et ça peut être pénible, soit d'attente de consolidation un peu plus basse, on voit difficilement de l'intérêt se reconstruire sur les niveaux actuels, et ça se confirme jour après jour. Alors évidemment, il n'y a pas d'alerte pour l'instant, même si on a de la complaisance dans les couvertures, et puis manque d'harmonie sur les indices, un plus haut historique sur le DAX, un trou d'air et la rupture d'un petit niveau d'alerte en intraday sur le CAC 40 réintégré ensuite, c'est toujours des signes de désorientation. Et sur le CAC 40, on le voit, fausse sortie par le haut jeudi dernier, fausse sortie par le bas aujourd'hui. C'est ce qu'on appelle un une figure en porte-voix, donc sous 8155 petite alerte, au-delà de 8227, pourquoi pas une dernière vague de hausse, mais pour l'instant c'est quand même assez compliqué.
Romain, merci, vous nous accompagnez jusqu'à 18h bien sûr en fil rouge. On va tout de suite débriefer cette séance, puis répondre aussi aux questions, aux interrogations que vous nous envoyez sur nos réseaux sociaux, vous tous sur notre fil X BFM Bourse. Vous avez été nombreux à nous interroger ce matin, on va répondre justement à ces questions que vous nous avez envoyées. C'est parti.
BFM Bourse, on refait la séance.
Grâce à Bertrand Lamiel aussi qui joue à nous, Ports en Part Gestion. Bonsoir Bertrand.
Bonjour.
Ravi de vous retrouver. Romain continue de nous accompagner bien sûr. Puis on appellera tout à l'heure également Christian Fontaine. Toute la team réunie pour vous répondre, mesdames, messieurs. N'hésitez pas d'ailleurs chaque jour sur nos réseaux sociaux à nous envoyer vos interrogations. Quand même, une des thématiques qui ressortent gagnantes de cette première séance de la semaine, forcé de le constater, c'est la thématique défense, Bertrand. Thalès termine en tête du CAC, plus 1,9%. On a aussi Dassault Aviation qui progresse. Bon, cette thématique défense, comment est-ce que vous la regardez? Est-ce qu'elle a encore beaucoup de potentiel dans le contexte géopolitique, bien sûr, et comment est-ce qu'il faut, quitte à y investir, comment est-ce qu'il faut l'aborder?
Alors, sur Dassault Aviation qui signe une très belle séance aujourd'hui, hein, 7,31 avec un gap nouveau plus haut. Donc, si on s'arrête là, on se dit, magnifique, tout va bien. Il faut quand même dézoomer, revenir un peu en arrière. L'essentiel de la performance sur les valeurs de défense, il était fait sur le premier trimestre 2022. Au moment où le conflit en Ukraine a éclaté. Derrière, certes, ça a continué à performer, puisque par exemple, une Dassault Aviation qui était à 160 est aujourd'hui à 200. Donc on peut dire très bien. Mais globalement, elle a fait la performance de l'Eurostoxx. Donc la surperformance est terminée. Donc nous, on n'est pas à l'achat sur Dassault Aviation. Dans la logique aéro, on a du civil avec un peu, mais ça va être plutôt Safran. Comporte bien et qui, elle, pour le coup, fait de la surperformance, continue à en faire, donc est sur une tendance qui n'est pas démentie, et donc qui, ça fait partie de nos portefeuilles. Et puis après, on a d'autres dossiers en Europe. On va aller soit dans les Nordiques chercher du Saab ou du Kongsberg, qui aussi sont dans la défense et qui se comportent mieux qu'une Dassault Aviation, ou aller en Italie avec une Leonardo qui a indiqué d'ailleurs dernièrement qu'elle allait faire encore des modifications dans son portefeuille d'activité, faire des acquisitions. Et donc, pareil, Leonardo, c'est un dossier qui se comporte bien et en tous les cas mieux qu'une Dassault Aviation. Donc voilà pourquoi la défense, pourquoi pas, mais pas avec le dossier Dassault Aviation.
Même si le titre ce soir, c'est vrai, c'est une des performances remarquables du marché. Effectivement, Dassault Aviation a connu une très très belle séance grâce à un relaiement d'opinion en plus d'Exane à surperformance. D'un point de vue technique, Romain, Dassault Aviation, vous partagez la prudence de Bertrand à l'instant ou vous voyez l'avenir davantage positivement pour ce titre?
Mais effectivement, il n'y a pas beaucoup de momentum à prendre encore et d'intérêt encore sur le titre. C'est un titre qui n'a pas bougé, qui n'a rien fait depuis un an quasiment. Il a évolué dans un trading range 171,50, 187,50. Il en est sorti par le haut la semaine dernière et il a déjà atteint sa cible à 204. Alors le titre clôture un petit peu au-dessus aujourd'hui, à 207. Si on veut voir des extensions, la cible suivante c'est 221. Ça fait 5-6% de hausse complémentaire. Est-ce qu'on a déjà atteint une première cible et que donc, après un an de consolidation, on n'a pas beaucoup de momentum encore une fois, et donc s'il n'y a pas d'alerte majeure ou de figure de retournement baissière, on n'a pas encore de marge de progression gigantesque. Le niveau d'alerte en revanche, il est loin, c'est 171,50.
Dassault Aviation qui se distingue. Cette question, tiens, qui nous parvient d'un auditeur. Il s'appelle, il nous écrit régulièrement d'ailleurs, les tontons répliqueurs sur notre fil X BFM Bourse. Il nous demande de parler aussi, au-delà de la défense, du segment, la tech et notamment d'AMD. C'est vrai qu'AMD fait partie des valeurs à suivre aujourd'hui sur le marché américain. Il a raison, les tontons répliqueurs, de nous alerter là-dessus. Sur Intel aussi. Pourquoi? Eh bien parce que la Chine a décidé de bloquer les puces Intel et AMD sur son marché. Alors quand même, la Chine pour AMD, c'est 22% des ventes. Intel, de son côté, réalise 27% des ventes en Chine. C'est pas rien, hein. La décision chinoise donc d'interdire leurs puces sur son territoire et notamment sur les marchés publics, ça se traduit par une sanction en bourse. Intel perd notamment 2%. Bertrand, votre regard là-dessus, sur AMD ou encore Intel, l'interdiction chinoise des puces, de l'usage de leurs puces, notamment dans les services gouvernementaux et publics chinois. Comment est-ce que vous regardez ça et l'impact des marchés aujourd'hui, la réaction des marchés cet après-midi?
Alors, les tensions commerciales entre la Chine et les États-Unis, c'est le drapeau rouge qui va être agité régulièrement sur les puces. De la même manière que sur les médicaments, ça va être le déremboursement. Enfin voilà, ce qui fait peur au marché à chaque fois, c'est le même sujet. Donc là, c'est le tour c'est le tour d'AMD, mais il y a quelques temps, c'était le tour d'NVIDIA qui était passé à l'époque de 500 à 400 dollars sur des contraintes et des restrictions à la vente à la Chine. Donc ça fait partie, donc ça fait des réactions qui sont fortes, mais parce qu'on est sur des dossiers qui à la fois sont plus volatiles, donc qui ont des tendances à avoir des séances avec des amplitudes de variation plus fortes que les autres, et puis ayant bien progressé, ben quand on prend des profits, ça peut faire des reculs relativement importants. En fait, AMD, c'est un vrai concurrent pour Nvidia, mais pour le seul, c'est encore un petit concurrent. Si vous voulez, ça démontre bien que voilà, quand on a un leader, il faut se concentrer sur le leader, parce que j'ai regardé sur les 5 dernières années, les moments où AMD avait fait mieux que Nvidia, en fait, on a eu 6 périodes de 30 jours. Donc, vous voyez, 5 ans, on est en train de parler de 1200 jours. Donc, on a eu 6 fois des périodes un peu plus de 30 jours où AMD a fait mieux. Donc, il faut se concentrer sur une Nvidia quand on a une tendance qui est là, qui est forte. Il faut rester sur les leaders. On peut après compléter avec AMD, aller regarder d'autres, mais d'abord avoir le leader et mieux positionné dans le portefeuille qu'un challenger. Depuis 2019, AMD, c'est un super score. Attendez, il faut pas se... Voilà, elle a fait x6 depuis 2019. Donc, eh oui. On serait très content d'avoir fait x6 sur l'intégralité de nos portefeuilles depuis 2019. Le sujet, c'est que Nvidia, elle a fait x22.
Elle a fait x22, voilà. Nvidia. Ah oui.
x22. Ah oui. Là où AMD fait x6. Donc, c'est une illustration que quand une tendance est en place, une tendance dure longtemps, on a plus profit à tirer, à jouer la continuité de la tendance plutôt que de se mettre en face d'une tendance et d'attendre qu'elle se retourne.
Oui, mais alors Nvidia dont vous parliez gagne encore 2% aujourd'hui. Citigroup a relevé récemment son objectif de cours sur Nvidia à 1030 $. On a Oppenheimer qui est passé à 1100 $. On a Goldman Sachs qui est passé sur Nvidia à un objectif de cours de 1000 $. Enfin, est-ce qu'on se dit qu'à un moment Nvidia pourrait être tenté, pourquoi pas, de diviser le nominal pour le rendre à nouveau, le fractionner, pour le rendre à nouveau accessible par exemple aux particuliers? Est-ce qu'on peut imaginer qu'il y a ça là dans le pipe du côté d'Nvidia pour encore apporter un peu de potentiel à cette valeur?
Oui, pourquoi pas, mais c'est pas dérangeant. Les valeurs en fait font ça parce que potentiellement il peut y avoir des limites à l'intégration dans certains indices. Si vous avez un nominal qui est trop important, vous êtes exclu de si vous voulez concourir pour rentrer dans le Dow Jones, avec un nominal à 1000, vous y arriverez pas. Donc mais après sur la liquidité, franchement, on est en train de parler d'une des valeurs les plus grosses du monde, il n'y a pas de sujet de liquidité.
Oui, c'est sûr.
Donc c'est pas très grave en soi. Un jour le leadership boursier de Nvidia sera contesté, peut-être par une AMD, peut-être par une autre qu'on ne connaît pas encore aujourd'hui, mais en tous les cas, c'est pas la tendance est là, donc il faut respecter et profiter des tendances qui sont en place. Donc ouais. Sur la tech, il y a des choses à faire, mais à ce stade, peut-être Romain en a d'autres, mais moi j'ai pas détecté de valeur qui était plus forte que Nvidia sur le segment.
Incroyable. Et on voit qu'AMD, alors même si la Chine donc annonce interdire l'usage des puces d'AMD désormais, AMD progresse. AMD n'a pas à rougir en bourse, effectivement, sur la même période, le titre a fait x6, pas mal, même si c'est moins bien qu'Nvidia. Et aujourd'hui, AMD, alors qu'Intel perd 2%, AMD résiste et gagne 0,1% en Romain. Est-ce que d'un point de vue technique, effectivement, vous la trouvez forte, cette valeur, ce titre AMD sur le marché américain?
À long terme, oui. À court terme, c'est un peu plus dégradé. En fait, le titre a validé en décembre dernier une structure de retournement haussière qui était en formation depuis janvier 2022. Il est sorti par le haut en débordant le niveau de 132,83. Et il est allé chercher le lundi 4 mars la cible haussière idéale du mouvement à 211,20. Depuis, il a formé une structure graphique qu'on n'aime pas beaucoup. C'est une étoile du soir, c'est-à-dire que on a une structure de 3 bougies hebdomadaires qui indique un mouvement baissier et le mouvement s'est validé avec des volumes un petit peu plus lourds. Ils ne sont pas extrêmement lourds aussi, donc ça limite l'effet baissier, mais une consolidation qui semble se mettre en place. Alors, pas d'alerte tant qu'on est au-dessus de la zone 157,60 sur 64,40, mais il faudrait sinon déborder 195 voire 203 pour activer la dynamique haussière. On va avoir besoin de reconstruire une structure. Pour l'instant, c'est plutôt baissier à court terme.
On vous retrouvera dans un instant vers... Oh, Bertrand, dans un instant, vous restez avec nous. Et Christian qui nous appelle, Christian Fontaine, depuis le magazine Le Revenu. C'est bien vous. Bonsoir, Christian.
Oui, bonsoir.
Vous êtes là. Ravi de vous retrouver, Christian. Ravi de vous avoir au bout du fil, effectivement, pour notre rendez-vous du lundi. Je n'étais pas certain que vous soyez là cette semaine. Vous êtes bien là. Et merci d'être présent et de nous appeler. Thomas nous écrit. Alors, ça tombe bien. On va profiter du fait que vous soyez avec nous pour tenter de lui répondre. Il veut savoir, Thomas, cet auditeur, quelle proportion de son épargne investir en bourse? Est-ce que la règle ancienne du 100 moins mon âge demeure d'actualité? Par exemple, si j'ai 40 ans, 100 moins 40 égale 60%. Je dois donc investir 60% de mon patrimoine en bourse. Est-ce que cette règle ancienne est encore valable, Christian?
Alors, elle demeure d'actualité, Guillaume, mais elle est imparfaite et elle doit être complétée par d'autres critères d'âge. Alors, effectivement, cette règle qui est très en vogue dans les milieux anglo-saxons, elle dit quoi? Elle dit qu'à la naissance un enfant, un nourrisson doit placer son épargne, la totalité de son épargne en bourse, 80% à 20 ans, 50% à 50 ans. Donc l'idée sous-jacente, en fait, hein, vous l'avez bien compris, c'est que plus vous avez du temps devant vous, plus vous pouvez vous permettre donc, alors, d'investir vos économies en bourse. Voilà, ça c'est un peu le principe. Et le revenu, en fait, partage un petit peu cette analyse, cette idée globale.
Tout ne dépend pas que de l'âge de l'investisseur, néanmoins. Quand on veut déterminer la proportion d'exposition au marché action, il ne faut pas juste regarder en fonction de son âge, on est d'accord.
Alors, vous avez entièrement raison. Il faut également regarder en fait un peu sa situation personnelle, son aversion au risque, son niveau de revenu, son niveau de patrimoine. Prenons un exemple. En fait, deux hommes de 45 ans. Le premier, par exemple, qui est aisé, donc alors, peut se permettre de bloquer l'ensemble de son épargne jusqu'à sa retraite. Le conseil du revenu, ça va être d'investir 100% de son épargne en bourse. À l'inverse, un homme de 45 ans, le même âge, qui est locataire, donc alors des revenus beaucoup plus faibles, le conseil du revenu, ça va être d'acheter son logement et donc de n'investir 0% en bourse. Vous voyez, donc cette règle donc du 100 moins son âge reste d'actualité, mais il faut la compléter. Et au revenu, on préfère plutôt la répartition 60-40. On considère que c'est un peu la répartition gagnante, 60% de placement sans risque et 40% d'action. Pourquoi c'est la répartition gagnante? Je terminerai là-dessus. C'est parce que c'est la répartition qui permet de gagner 4 à 5% par an dans la durée.
Merci beaucoup Christian Fontaine, le magazine Le Revenu, d'avoir répondu notamment à cet auditeur Thomas qui nous a écrit bfmbourse@bfmbusiness.fr. Bertrand est toujours là, Bertrand?
Oui.
Depuis Ports-en-Parts, Bertrand, allez, quelques secondes pour évoquer aussi une autre valeur qui se distingue ce soir sur le marché. On dresse le bilan de cette première séance de la semaine. Believe gagne plus de 5% en clôture. Mérité la hausse de plus de 5%. C'est parti pour durer. Là, on est en pleine martingale boursière, de joute boursière autour de Believe.
Parti pour durer. Non, je pense qu'il y avait deux acteurs qui se contestent la propriété finale de Believe. Donc, il y a eu dans un premier temps une première prime de 25% qui était mise à 15 euros et ensuite une autre à 40% à 17 euros. Je pense, enfin, à moins de voir surgir un troisième acteur ou d'avoir une surenchère, je pense que le prix est fixé. Mais Believe, si vous voulez, c'est un peu l'illustration. C'est une société qui est rentrée en bourse quand même assez récemment. C'est un peu une illustration, malheureusement, de ce qui est en train de se passer sur les petites et moyennes valeurs, à savoir que la bourse reconnaît pas leur valeur industrielle, puisque là, on a deux acteurs qui décident que c'est pas cher et qui sont capables de mettre des primes allant jusqu'à 40%, et que à ce niveau-là, manifestement, ils auront encore un investissement qui est rentable. Donc là, ça vous donne une idée de la valeur cachée qu'on a sur tout le segment des mid and small, des décotes qu'on peut avoir, notamment par rapport à des titres sur le private equity.
Merci beaucoup. Bertrand Lamiel avec nous, le directeur général de Ports-en-Parts Gestion. On remercie aussi Romain Daubry qui nous accompagnait, lui, depuis Bourse Direct. Et puis la Data Room, si vous l'avez raté en direct vers 17h25, replay à suivre. Louis de Montalembert, notamment, nous apportait un chiffre incroyable qui montre à quel point l'IA générative est en train de se diffuser et se répandre plus vite qu'attendu, plus vite que prévu, plus vite qu'anticipé. Ce chiffre fort, cette data, vous la retrouvez donc sur notre site BFM Bourse, le replay vient d'être mis en ligne. Dans un instant, vous retrouvez Guillaume Paul, Audrey Tcherkov et Edwige Chevrillon. C'est Good Evening Business jusqu'à 20h. Le CAC, on vous le rappelle, ce soir a gagné péniblement 0,1%. Bonne soirée à tous.
BFM Bourse, vos placements, nos conseils sur BFM Business.